Bonsoir à tous, merci d'écouter Radio France Internationale, 20h à Bamako, 22h à Paris.
Adrien Delgrange.
Avec ce soir, Zéphirin Quadio pour vous présenter ce journal en français facile. Bonsoir Zéphirin.
Bonsoir Adrien, bonsoir à toutes et à tous. À la une de cette édition du 13 juin.
C'est l'image du jour, deux énormes bateaux en feu au large de l'Iran. Ces navires transportaient du pétrole et sont toujours en proie aux flammes depuis ce matin. Alors accident ou attaque, difficile d'établir les causes de l'incendie ce soir. Une chose est sûr, l'ONU convoque demain une réunion d'urgence à la demande des États-Unis pour comprendre ce qui s'est passé.
L'Algérie également à la une de ce journal. En deux jours, deux anciens premiers ministres placés en détention préventive.
Dans l'actualité européenne, au Royaume-Uni, l'ancien maire de Londres, Boris Johnson, est bien placé pour remplacer Theresa May comme chef du gouvernement britannique.
En France, au procès du couple Balkany, le représentant de l'État demande 7 ans de prison ferme pour le maire de Levallois-Perret, Patrick Balkany, et 500 000 euros d'amende pour son épouse.
Voilà pour les titres, soyez les bienvenus.
Les journaux
en français facile.
En français facile.
Et Adrien, deux bateaux en feu dans la mer d'Oman.
Alors que s'est-il passé? C'est la question que l'on se pose. Deux pétroliers, l'un norvégien, l'autre japonais, naviguaient au large des côtes iraniennes lorsqu'ils ont probablement subi une attaque ce soir. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo accuse l'Iran d'être responsable des attaques menées contre ces deux bateaux. L'origine des attaques présumées ne sont toujours pas établies à l'heure actuelle, mais pour l'heure, Zéphirin, difficile donc de dire ce qui s'est réellement passé. C'est d'ailleurs ce que nous explique l'amiral et ancien président de l'Académie de Marine, Alain Coldefy.
J'entends parler de torpille, ça me paraît assez impossible, hein, parce qu'une torpille, ça se lance d'un sous-marin, d'un avion ou d'un hélicoptère, il y a des bateaux partout, ça me semble impossible. En revanche, ce qui est beaucoup plus probable, c'est qu'il y ait des mines, et là, des mines, il y en a partout, surtout depuis la guerre Iran-Irak. Il y a des mines qui peuvent avoir dérivé, ça peut être une mine déposée longtemps, mais ça peut être une mine déposée intentionnellement, parce que il y a le golfe arabo-persique, hein, avec face à face l'Arabie Saoudite, et de l'autre côté est, l'Iran. C'est des zones de passage obligées, il est assez facile de mouiller des mines, on surveille pas tout en permanence, partout, tout le temps, et on est dans une zone de confrontation entre sunnites et chiites, entre l'Arabie Saoudite et les Américains et puis l'Iran chiite, à la fois sur terre, bien sûr, on pense au Yémen et tout ça, et puis en mer. Donc c'est une zone où pas mal de gens ont intérêt à être un peu turbulents.
Alain Coldefy, propos recueillis par Oriane Verdier. Comme je vous le disais en titre, à la demande des États-Unis, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence demain à New York et à huis clos. Et puis enfin, sachez que ces attaques présumées de ces deux pétroliers ont immédiatement fait s'envoler les prix du pétrole, plus de 2% du prix du baril ce soir.
Et on part à Hong Kong au lendemain des manifestations contre Pékin.
La jeunesse protège. Protestataires s'inquiètent des poursuites judiciaires qui pourraient être données après les altercations, les bagarres avec la police à Hong Kong. Écoutez ce reportage de notre envoyé spécial Stéphane Lagarde.
La station de métro du Conseil législatif de Hong Kong est restée fermée ce jeudi, ce qui n'a pas empêché les manifestants en petit nombre de se rendre devant le Parlement pour dénoncer encore une fois le projet de loi sur l'extradition. Des protestataires masqués pour se protéger des caméras de la police, affirme Wilson, employé de banque.
C'est juste pour se protéger le visage. Nous avons entendu que certains manifestants avaient été arrêtés par la police grâce aux caméras de surveillance et aux autres moyens prouvant qu'ils étaient à la manifestation mercredi.
Une inquiétude partagée par Sherry, 27 ans, qui ne veut pas dire ce qu'elle fait dans la vie, ni même son vrai prénom, est particulièrement vigilante sur les traces qu'elle laisse sur les réseaux sociaux.
Si je poste quelque chose qui leur déplaît sur Facebook, ils peuvent m'arrêter. C'est arrivé à un leader de groupe sur la messagerie Telegram. C'est dangereux, mais nous voulons continuer à dire la vérité.
Dire la vérité sans se faire attraper, pour cela éviter d'utiliser la carte Octopus des transports de Hong Kong, qui conserve, dit Tommy, le souvenir de vos déplacements.
Tout le monde a peur. Certains s'inquiètent par exemple des traces laissées sur la carte du métro. Que la police puisse savoir la station où vous êtes descendu. Alors ils achètent des tickets à l'unité.
Selon le responsable de la police de Hong Kong, seules 11 personnes auraient été arrêtées dans les affrontements de mercredi. Stéphane Lagarde, Hong Kong, RFI.
Les journaux en français facile.
Et à présent, l'actualité sur le continent africain, Adrien, avec les mots d'apaisement du président malien.
Je vous demande de ne pas vous livrer à des actes de vengeance, c'est ce qu'a déclaré Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, aujourd'hui, lors d'un déplacement dans le village d'Ogon, du centre du pays, frappé par une tuerie, il y a 4 jours.
Et puis dans le nord-est de la RD Congo, situation toujours tendue en Ituri.
Et ce, après des violences intercommunautaires ces 3 derniers jours, des violences qui ont fait au moins 50 morts selon le gouverneur de cette province du nord de la RDC. Écoutez les explications de Léa Lisa Vesterov.
Impossible d'avoir un bilan officiel car dans les différentes localités des territoires de Djougou, les communautés font encore le décompte des corps. Plus de 60 affirme l'Assemblée provinciale, tandis que la société civile, elle, parle de près d'une centaine de victimes. Seule certitude dans l'immédiat, la violence de ces tueries, elles ont démarré ce week-end et se sont embrasés lundi après que 4 commerçants de l'ethnie Lendou aient été assassinés par des membres de la communauté Emma. S'en est suivi un cycle de représailles sanglants dont personne n'est sûr encore qu'il ait réellement pris fin et d'énormes déplacements de populations paniquées. L'armée congolaise, elle, accuse un groupe armé d'être responsable de cette flambée de violence. Depuis hier, la communauté Emma, majoritaire à Bounia, le chef-lieu de la province de l'Ituri, a décrété 3 jours de deuil et demandé à tous les commerces de tirer leur rideau en signe de protestation face à ces tueries. La situation restait tendue dans cette ville cet après-midi, avec plusieurs centaines de jeunes venus manifester et dire leur colère et l'armée déployée dans différents quartiers de la ville.
Léa Lisa Vesterov. Et puis en Algérie, c'est le deuxième premier ministre d'Abdelaziz Bouteflika envoyé en prison en 2 jours. Ahmed Ouyaïa, placé en détention préventive hier. Aujourd'hui, c'est l'ancien Premier ministre Abdelmalek Sellal qui est écroué. Selon l'agence de presse algérienne APS, Abdelmalek Sellal, tout comme Ahmed Ouyaïa, sont soupçonnés d'avoir dépensé l'argent public algérien.
Dans l'actualité française à présent, c'est toute la nation qui s'incline et qui pleure. 3 de ses enfants morts en héros.
Ce sont des mots prononcé aujourd'hui par le président français Emmanuel Macron au Sable d'Olonne dans le département de la Vendée. Le chef de l'État rendait hommage aux 3 sauveteurs de la SNSM morts vendredi dernier en portant secours à un chalutier en détresse.
Au tribunal de Paris, les réquisitions sont tombées pour le couple Balkany.
Et c'est le procureur qui demande au nom de l'État 7 ans de prison avec incarcération immédiate pour Patrick Balkany et 500 000 euros d'amende avec une peine de 4 ans de prison avec sursis. Autrement dit, si elle est jugée coupable, elle n'ira pas en prison. Isabelle Balkany, ils sont soupçonnés tous les deux de fraude fiscale et de corruption. C'est une annonce à présent qui provoque déjà la colère de l'opposition de droite en France. Les délinquants âgés de moins de 13 ans ne seront plus poursuivis en France. C'est ce qu'explique la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, dans une tribune publiée par le journal La Croix. La ministre veut en effet introduire le principe d'irresponsabilité pénale jusqu'aux enfants âgés de 13 ans. Écoutez les précisions de Grégoire Sauvage.
Actuellement en France, c'est le juge des enfants qui décide si un mineur possède suffisamment de discernement pour être poursuivi. Une appréciation au cas par cas qui laisse une certaine liberté aux magistrats. Problème, la Convention internationale des droits de l'enfant impose d'introduire un seuil d'irresponsabilité pénale. Un seuil d'ailleurs appliqué par de nombreux pays européens. Avec cette mesure, la France ne ferait donc que se mettre en conformité avec les textes qu'elle a signés. Cependant, Nicole Belloubet sait que le sujet est sensible à droite. C'est pourquoi elle précise que la fin des sanctions pénales ne signifie pas l'absence de réponse judiciaire. Les victimes pourront être indemnisées et les jeunes concernés pris en charge dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative. Par ailleurs, ce seuil de 13 ans présente ne sera pas rigide. Les magistrats pourront faire exception à ce principe, mais devront motiver leur décision. Sur cette réforme de la justice des mineurs, la garde des Sceaux veut aller vite. L'ordonnance sera présentée à la rentrée en Conseil des ministres, mais n'entrera en vigueur qu'un an plus tard pour permettre le débat parlementaire, promet Nicole Belloubet.
Un dernier mot de football mondial féminin. L'Australie a battu le Brésil ce soir 3-2. Et puis à Paris, les Chinoises mènent à l'heure actuelle 1-0 face à l'Afrique du Sud.